notre invité de questions pernicieuses.
Voilà, bah, je pense que on peut dire que la chasse est ouverte. La chasse est ouverte.
Vous êtes avec nous.
Voilà.
Bon. Alors Gilbert, j'aimerais savoir d'abord par qui et quand fut créé Pulsar et qui en fut à l'origine. Est-ce que tu peux en quelques mots dresser l'historique de ce groupe?
Oui, en quelques mots c'est un petit peu difficile parce que c'est quand même un groupe qui a un parcours un petit peu long. Mais bon, alors ça a commencé, il faut dire qu'on était déjà des copains de lycée, des copains d'enfance, vraiment avant d'être des musiciens. Et chacun de nous a appris à jouer avec l'autre, ensemble, simultanément. Ce qui fait qu'on a monté notre groupe au début des années 65-66, avec toute la mouvance anglaise de l'époque, qui était, bon... qui allait du rhythm and blues à la musique non pas progressive à l'époque mais qui
non,
était
non, ça n'existait pas encore.
Oui, qui était très proche de Pink Floyd, enfin de Soft Machine et des choses comme ça quoi. Ce qui fait qu'on a appris à jouer un petit peu ensemble tout en étant au lycée en continuant nos études, nos chères études. Et puis peu à peu, bon, le groupe s'est mis à fonctionner un petit peu de partout. D'ailleurs, on a joué ici à la Rotonde des Humanites, ça devait être en 69. Je sais pas si ça existe encore.
Oui, oui, ça existe encore, tout à fait.
C'est encore un souvenir très très présent à mon esprit.
On pourrait rêver et puis revoir ça.
Oui,
ça.
C'est une chose que j'aurais aimé faire.
C'était complètement psychédélique à cette époque-ci, quoi. C'était beaucoup moins structuré que ce qu'on a pu faire par la suite. Mais c'était donc la première image de la jeunesse qu'on pouvait donner à notre musique, quoi. Alors donc, les premiers fondateurs, c'était donc Jacques Roman,
au clavier,
le frère de Jacques Roman, qui était le bassiste et le plus âgé du groupe à l'époque.
Philippe Roman.
Voilà. Moi. Et puis Victor est donc venu par la suite.
Victor Bosch.
Voilà, Victor Bosch, voilà,
d'accord.
C'est ça.
D'accord.
Voilà.
Donc des amis de lycée, ça c'est vraiment très curieux, c'est rare, hein, parce que bon... En général, les groupes se prennent un peu partout, un musicien par-ci, un musicien par-là. Là, c'est ce qui explique que même maintenant encore, vous êtes soudés.
Oui, oui, parce que ça correspond en même temps, non pas uniquement à la musique, mais à tout un mouvement qu'on vivait simultanément à la musique, quoi. Donc c'était... la musique, au départ, était un petit peu un prétexte par rapport à toute la mouvance qu'on pouvait vivre dans le lycée et tout ça. Donc ça correspondait à l'avant 68, où il y avait toute une émergence de choses qui étaient en train de se réaliser.
Déjà avant 68, t'as commencé à...
Ah oui, complètement, oui, complètement. Ah. On faisait pas tout à fait la même musique, mais disons qu'on jouait, on jouait déjà beaucoup. Et donc le groupe a commencé à s'orienter vers ce genre de choses. Donc on a senti des choses qui venaient d'Angleterre, tel Floyd, de Soft Machine et des choses comme ça, dès 68, 67, 68. Donc on a vraiment réussi à faire notre analyse de cette musique à partir de cette période.
Mais par goût ou par opportunisme?
Non, absolument pas par opportunisme. C'était carrément une envie d'être dans une mouvance. Et puis en fait, moi j'ai commencé, j'avais 14 ans, hein, il faut dire les
D'accord.
choses comme elles étaient. Donc l'opportunisme, c'était... L'époque n'existe pas tellement.
D'accord.
Mais c'était surtout une envie, quelque chose de très important qui faisait qu'on était en prise directe avec notre époque, donc avec la musique, donc avec un mouvement, donc l'envie d'être quelque chose d'important en fin de compte.
Est-ce que les musiciens avaient des antécédents musicaux? Je pense pas, hein, puisque vous étiez...
Si, un petit peu. Enfin, moi, j'ai beaucoup joué de guitare avant. J'ai commencé quand j'étais tout petit avec mon papa, tout ça. On a fait beaucoup de choses.
Ouais.
Mon père faisait du musette. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses comme ça,
ouais.
Qui n'avaient strictement rien à voir.
Ouais, non, mais
donc, j'ai commencé à faire de la scène beaucoup plus tôt. Jacques aussi sortait d'un milieu beaucoup plus classique, avec des études musicales plus poussées que les miennes. Victor, lui, était totalement autodidacte par rapport à ça. Le bassiste aussi, donc, qui était le frère de Jacques, avait avait fait des études qui étaient plus proches du classique que moi. Donc, tout cet ensemble a fait qu'on s'est intéressé au départ d'horizons différents. Ça fait un mélange un petit peu bizarre qui a fait qu'on a fait monter le groupe comme ça.
D'où vient votre nom? Est-ce que le nom, est-ce qu'il a une signification? C'est un choix délibéré? C'est un côté un peu philosophique? Ou est-ce que c'est accidentel?
Au départ, bon, c'est le groupe s'appelait Free Sound. À l'époque, on a joué à la Rotonde des Humanites, là.
Ouais.
Donc, on s'appelait Free Sound. C'était bon.
C'était effectivement un peu psychédélique.
Voilà.
Liberté.
C'était entre Hendrix, les Stones, enfin tout ce mouvement-là.
Ah, d'accord.
Et bon, Philippe, Roman qui était un petit peu l'instigateur au départ de cette nouvelle destinée du groupe, qui lui était très influencé par la science-fiction, au niveau il lisait énormément de science-fiction, a pensé que ce groupe pourrait être intéressant.
Ce nom plus tard.
Correspondant tout à fait à ce qu'on allait faire, quoi. Par rapport aux paroles surtout qui étaient sur Pollen par la suite et des choses comme ça, quoi.
Ok. Voilà déjà pour le début de Pulsar, les prémices. On a vu donc les membres, on a vu donc le nom de ce qu'il venait. Quels étaient, on l'a vu un petit peu, mais bon, on peut peut-être préciser un peu quand même. Quelles furent ou quelles étaient les influences du groupe, hein? Est-ce qu'il y a eu, bon, dans la carrière de Pulsar, bon, on avait au début, mais après, est-ce qu'il y a eu des périodes avec des influences bien précises? Bon, je pense, entre autres, à Halloween, où il a été clairement dit que Mahler avait influencé énormément cet album. Bon, est-ce que tu peux préciser un peu ça?
Oui, ben, c'est-à-dire le parcours d'un groupe de rock ou de progressive musique est un petit peu bizarre, quoi. De toute façon, chaque personne amène des disques. Par exemple, en répétition, nous, on travaille d'une manière un petit peu bizarre. Alors, bon, chacun arrive avec ses albums, pas pour copier ou quoi que ce soit, mais c'était simplement une question de passion. On arrivait, on se disait, tiens, j'ai écouté ça cette semaine, bon, ça pourrait aller des Beatles, ça pourrait aller des Stones, ça pourrait aller de Floyd, n'importe quoi. Et puis il y en a d'autres qui se branchaient plus sur le classique, notamment, donc il y avait une étude un peu plus classique au départ, comme Jacques Roman et Philippe Roman, qui nous amenaient des albums. Pour parler d'Halloween, parce que c'est un des plus récents, on était un petit peu en recherche après le second album qui avait bien marché d'ailleurs.
The Signs of the Future, voilà. Sorti en 2017.
Et on avait besoin, on a constamment besoin, quand on fait un album, quand on fait des tournées constamment comme on l'a fait, de se ressourcer constamment. Et donc on avait des contacts, des tas de choses au niveau du rock'n'roll, au niveau de chacun de nous avait une mouvance particulière. Et donc on s'est retrouvé complètement au milieu de la musique de Mahler, un jour en répétition comme ça, on était dans une ferme, je me rappelle plus où c'était d'ailleurs, on répétait Halloween avant d'entrer en studio en Suisse, et on s'est dit c'est ça qu'il nous faut, parce que c'était la musique qui portait à l'époque pour nous la plus d'émotion. Le plus d'émotions possible.
C'est vrai
possible.
Que le bouquet est en panne d'émotions.
Avec autant le côté passionnel,
côté désespéré.
Voilà, c'est ça.
Mais très mélancolique.
Voilà, voilà. Et qui correspondait complètement à l'histoire de Halloween. Donc c'est pour ça que, si tu veux, on s'est retrouvé dans cette histoire en Mahler à complètement planer dessus et à inventer des histoires.
Est-ce que Moravnis, qui est sorti à peu près dans ces eaux-là, je crois, vous a influencé ou pas?
Ah, complètement, oui. C'était un film phare de cette époque-là qui nous a complètement influencé de par sa lenteur. Parce que si tu écoutes Halloween, il y a quelque chose, bon, si tu veux, ça se fait, hein, c'est pas des chansons, ça se fait en deux faces. C'est une histoire qu'on raconte, une petite fille avec des choses très ambiguës dedans.
Précise un peu l'histoire, pour moi elle reste assez floue, cette histoire
d'Halloween. De toute façon, ça restera chacun y retrouvera un petit peu son compte. Bon, c'est une histoire qui se passe dans la tête d'une petite fille qui, si tu veux, on a l'impression que cette gamine parle vraiment avec un personnage. Et donc tout se déroule autour d'un, elle parle à quelque chose ou à quelqu'un, mais en fin de compte, à la fin de l'histoire, on se rend compte qu'elle parle à un bouton, simplement un seul bouton. Tout s'est passé dans son imagination sans que un seul instant on ait pu croire à ça, et en fin de compte c'était simplement de l'imaginaire pur,
très nébuleux.
Voilà, toute cette musique est basée là-dessus. Et voilà, donc.
Mais là, pourquoi ce titre Halloween? Parce que bon, on pense tout de suite à la fête de la Toussaint, les enfants déguisés aux États-Unis. Et pourquoi ce titre-là, pour cette ambiance, j'ai l'impression que ça fait un petit peu contradiction.
Oui, c'est ça. Mais en fait, tu sais, les titres chez nous, ça a toujours été une question d'embellissement des choses. Ça n'a jamais été très très important. Mais en fait, là, avec le recul, je me rends compte que l'histoire d'Halloween a toujours un côté ambigu, si tu veux, entre les sorcières d'un côté et le côté magique, et le côté très beau des choses.
Et le côté enfant.
C'est ça. Et donc, ce que je te disais avec le bouton, le côté imaginaire un petit peu cruel de cette histoire, malgré tout, qui fait qu'on retrouve les deux facettes d'Halloween. Voilà.
D'accord. Bon, est-ce que les trois albums qu'on connaît bien de Pulsar, on parlera après de Bienvenue au Conseil d'Administration, est-ce que donc Pollen, The Strands of the Future et puis Halloween représentent bien votre évolution et ce que vous avez fait au niveau musical, ou est-ce qu'il y a eu des choses qui sont restées un peu dans l'ombre ou qui n'ont pas été dites, etc. Est-ce que ça colle bien votre évolution à votre...
Je pense que oui, complètement, parce que de toute façon, c'est vrai qu'on a, on regrette toujours, c'est-à-dire on se dit on aurait pu mettre ça, parce qu'il s'est passé un truc avec Pulsar, toujours, de toute manière, c'est qu'avec les tournées, on tournait quand même plus de 200 jours par an, c'est-à-dire qu'on tournait constamment.
Vous êtes baladé pas mal, je crois, en Europe.
Ah oui, on a été vraiment partout, vous sauf aux États-Unis, je crois que c'est la seule.
Mais vous êtes allé où, pour donner un petit peu un exemple?
On a fait l'Allemagne, on a fait l'Italie, on a fait la Belgique, on a fait la Suisse, Portugal, c'est là où on a remporté le plus gros succès d'ailleurs.
La Grande-Bretagne?
Grande-Bretagne, oui, on a fait une tournée de 3 semaines, à l'époque de Kingdom, à l'époque donc du premier album, et c'était genre un choc pour un groupe français, parce que c'était déjà un...
Signé sur un label anglais, qui plus est, celui de Caravan,
c'était un petit peu énorme pour nous qui venions de Lyon, donc en plus on a fait toute la traversée d'une seule traite, et on s'est retrouvé au Marquis Club le soir même. C'était un petit peu dur pour un groupe de Saint-Jean, quoi, à la limite. Ça forge un petit peu le caractère, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, quoi.
Ça tient un peu du conte de fées, là.
Ah oui, c'est assez dingue.
Ouais, absolument.
Comme ça, c'est assez dingue.
Ouais,
mais
absolument.
Donc, pour revenir à ces albums, ils tiennent bien compte de votre évolution musicale et de ce que vous vouliez faire.
Oui, absolument. Bah, de toute façon, je veux dire, chaque musicien a certainement des regrets par rapport à des choses, des trucs. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'on a toujours travaillé, toujours tous ensemble, une espèce de synthèse qui faisait qu'à la fin, tout était passé au tamis. Donc, chacun amenait des idées, et le meilleur de toutes les choses... En fait, il n'y avait pas une personne qui disait « je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça ». On a toujours travaillé ensemble en collaboration. Ce qui fait que c'était le meilleur de chacun de nous quatre ou de nous cinq, suivant la mouvance dans laquelle on était, qui faisait qu'on avait le meilleur passé au tamis. C'était le cas pour Halloween, on s'est enfermé pendant un mois dans une ferme avec des histoires, des tas de choses, du rêve, beaucoup de choses, surtout du rêve, et surtout énormément de travail aussi. Et qui fait qu'on a pu réaliser ces albums quand je les écoute actuellement, je dis, bon, mais c'est une époque de ma vie, une époque de la vie de Jacques, de la vie, mais qui est totalement en accord avec cette époque-là, sans aucun problème.
Et les deux premiers albums, tu m'avais dit une fois, avaient été enregistrés presque en live, c'est-à-dire que vous aviez joué d'un seul tenant vos morceaux, alors que Halloween, si je dis pas de bêtises, les morceaux ont été coupés petit par petit, et comme un puzzle, un petit peu assemblés les uns après les autres. C'est ce que tu m'avais expliqué, tu m'avais énormément étonné d'ailleurs.
Oui, mais ça c'est des techniques de studio qui se font toujours, c'est ce qu'on appelle le re-recording. Mais le problème d'Halloween, c'est que c'était un album qui est complètement fractionné en des tas de petites séquences comme ça, comme au cinéma. C'est des
on n'a pas l'impression, on a l'impression d'une homogénéité, c'est assez dingue.
Ça c'est des plans montage, des plans de séquences, ce qu'on appelle le plan de séquence au cinéma, qui est rejoint après donc avec un vrai monteur, avec... Donc chaque plan séquence, à la limite pour parler comme du cinéma ou de la télévision, était enregistré à part. Et ensuite, on les montait sur un 24 pistes. Alors, ça se fait toujours maintenant, mais à l'époque, ça se faisait pas tellement. C'était une technique un peu particulière, qui fait que chaque chose est homogène par le montage lui-même. C'est-à-dire qu'on rejoignait les choses, chaque séquence, entre chaque séquence, je veux dire, il y avait une atmosphère qui faisait qu'on pouvait lier les deux séquences. Et qui, c'est vraiment le
séquences principe étaient de
deux caméras croisées.
Et les séquences étaient combien de temps
Ça dépendait vraiment des chansons, en fin de compte, il fallait compter entre 2 à 3 minutes, oui.
Tout ça a été fait dans le studio Aquarius, où joué entre autres peu de temps avant Yes pour Going for the One. Michael Field, je crois, si
je me souviens. Oui, c'est ça. Et en plus, il y avait Michael Field, il y avait aussi le guitariste de jazz, là, qui est très très connu, qui fait des choses très belles aussi, qui est un type très rapide, McLaughlin, voilà.
John McLaughlin.
Et donc, moi, j'ai eu la chance, justement, d'arriver une semaine après McLaughlin, c'est-à-dire que lui avait fait un album uniquement à la guitare sèche. Donc, j'ai pu bénéficier du son exactement de la cabine dont étaient montés les micros, pour bénéficier enfin d'un son qui était révolutionnaire à l'époque, qui était très pur, très net.
C'est vrai que le son de guitare est très présent et très...
Ouais, oui, c'est ça. Donc, mais ça, c'est une somme d'expériences de tas de musiciens qui sont passés avant, internationaux, qu'on n'aurait peut-être pas eu à cette époque en France. Bon, parce qu'il n'y avait pas la même expérience. Les studios étaient de même qualité, mais les expériences étaient plus internationales en Suisse, quoi.
Bon, je pense qu'on va peut-être, si l'ingénieur du son est d'accord, passer maintenant un petit intermède musical. Et on continuera donc après sur l'interview de Gilbert Grandil.
Oui, donc moi je voulais d'abord préciser, si vous prenez juste l'antenne à l'instant, que vous êtes sur Radio Brume 95.5 avec Bande à part, l'émission du rock progressif, des rock progressifs de tous les âges, puisqu'on a ce soir en émission exceptionnelle Gilbert Grandil, le guitariste de Pulsar. Voilà, histoire de préciser un peu l'histoire, où est-ce qu'on en est en ce moment.
Voilà, donc si t'es d'accord, on va enchaîner avec un groupe allemand assez majeur aussi, puisqu'il s'agit de Grobschnitt, on a déjà passé. Voilà, et je voulais demander justement à Gilbert Grandil, quels ont été les premiers enregistrements qui ont été faits, à part bien sûr Pollen, quelles ont été les premières gravures, les premiers témoignages sur cire qui ont été faits par le groupe.
Bien, c'est... Justement, c'est ce que tu vas passer là, parce qu'il n'y en a pas d'autres.
Oui, il y a donc Groovy Pop Session. Il n'y a pas eu de tentative de 45 tours à l'époque.
Non. C'était, en fait, en fin de compte, cette musique s'adaptait très mal aux 45 tours, et toujours maintenant d'ailleurs. Donc, ouais. C'était la première gravure qui était faite, donc qui était faite au Golf Drouot à Paris, parce qu'on jouait très souvent là-bas. Mm-hmm. Et donc, c'était fait en même temps que Orange et tout ça. C'était un truc live assez étonnant d'ailleurs.
Et vous avez remporté un prix, quelque chose, c'est pour ça que vous figurez sur cet album.
Ah oui,
c'est ça. Pourquoi voilà. Vous êtes sur cet album là?
Si tu veux, on faisait des tournées un petit peu, des petites tournées au départ, et puis on allait un petit peu de partout, et là on s'était retrouvé sur la côte à faire un truc qui s'appelait le Jamboree Belin. C'était des boîtes de biscuits, tu sais, là, qui faisaient un trophée, avec des groupes de rock de l'époque, et le prix, dans le jury, il y avait Henri Leproux du Golf Drouot, le célèbre Henri Leproux. Et donc, le premier prix, c'était donc enregistrer cette compilation, avec les groupes de l'époque, quoi, qui étaient Ange.
Ça paraît incroyable maintenant.
Oui, en fait, c'est rigolo parce qu'on vient de refaire une compilation justement avec les mêmes gens. Et donc, on a gagné ce premier prix qui était sur la côte, c'était au Gros du Roi, je crois. Oui, un truc comme ça, on a profité pour se baigner d'ailleurs. C'est sympa. Et donc, on a gagné une grosse boîte de biscuits plus un enregistrement sur une compilation. On n'a pas eu le choix, on a pris les deux, tu vois. Plus un joli petit trophée. Et voilà, on s'est retrouvé là-haut, comme ça.
Et qu'est-ce que je veux dire, vous aviez fait un choix délibéré de descendre sur la côte, parce que vous pensiez qu'il y avait des producteurs qui traînaient par là, je crois, non?
En fait, non, ça se passait pas. C'était un petit peu des tremplins, tu sais, qui se passaient sur la région Rhône-Alpes à l'époque déjà. Et nous, comment on jouait, je crois que c'est le théâtre du 8e qui nous avait envoyé là-bas, parce qu'on jouait très souvent avec le théâtre du 8e à l'époque de Maréchal, de Luc Mélite et tout ça. Donc, on faisait beaucoup de choses avec le théâtre.
Déjà des amours avec le théâtre, on y reviendra après.
Ouais, oui, c'est ça. Et donc, ils nous ont parlé de ça, et puis ils nous ont branché là-dessus. Et on commençait à avoir un petit public en France, donc on commençait à tourner un petit peu, ce qui fait qu'on s'est retrouvé donc dans un festival comme ça, à faire des concours, des choses, d'accord. Ce qui fait qu'on a gagné le premier prix tout à fait comme ça, donc, et puis on s'est retrouvé, je te dis, à Paris, à enregistrer notre album, quoi.
Bon, alors deuxième question de cet ordre, et bon, on passera tout de suite à ce document puisqu'on l'a ici sur la platine. Comment avez-vous rencontré Terry King de Kingdom Records et comment vous avez été amené à enregistrer sur ce label anglais? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le déclic?
Eh bien, si tu veux, bon, à l'époque où on a commencé, donc on a fait notre premier truc au Alphodro, comme ça. Et puis, donc après, à partir de Groovy Pop Session, on a commencé à tourner pas mal, quoi. Sous le nom de Pulsar et tout ça, à faire beaucoup, beaucoup de tournées, de petites tournées. Et puis on s'est dit, bon, on va faire une maquette. En fait, on y était au culot là-bas. On était carrément au culot. On s'est dit, pourquoi on n'irait pas voir les maisons de disques anglaises qui sont intéressées justement par tout ce mouvement progressif international. On s'est dit, on verra bien. De toute façon, on n'a rien à perdre. Donc on a été voir grosse boîte et tout ça, on avait pris rendez-vous et tout ça, on est monté avec une petite voiture, on s'est retrouvé avec notre petite bande des Oussins et on a été voir à l'époque la maison d'Emerson, Lake & Palmer, mm-hmm. qui est qui était
Manticore.
Manticore, où il y avait à l'époque PFM qui avait enregistré un groupe italien. C'est, en fait, c'était parti de là.
PFM et Bancourt.
Voilà, c'est ça. Donc les Italiens ont fait des choses.
Pourquoi pas les Français?
C'est ça. Voilà. Donc on était appuyé par plein de gens ici en France, le golf et tout ça, plein de gens. On est monté à Manticore. En fin de compte, Manticore, c'était bon, ça les intéressait pas. C'était pour plein de raisons inhérentes au métier à l'époque. Ensuite, on était voir Island aussi. Ils n'étaient pas intéressés par le mixage. Ils pensaient que ça pouvait pas correspondre à leur image de maison de disque. Ensuite, on était voir Terry King. On a fait les trois. Terry King, donc c'était la maison de Caravan. C'était la maison, la première maison de vente de la Graph Generator de Genesis au départ aussi. Et qui fait que lui se dit, ce sont les premières bandes, quoi, ce qu'on a fait, correspondrait à l'image de sa maison.
Ah ouais, son label.
Voilà, de son label. Donc il a dit ok.
Un propos tout à fait commercial.
Ah non, absolument. Tu sais, quand tu vas dans n'importe quelle maison de disques, les types c'est pas des gens qui sont là et disent bah c'est chouette. Non, ça se passe pas comme ça. Se dit ça correspond à mon image, je peux vendre. Tu vois, ça marche de cette manière. En Angleterre à l'époque c'était comme ça. Alors qu'en France à cette époque-là, personne croyait à ce genre de musique. Les Anglais nous ont signé, ils ont vendu. Après, on était rachetés par les Français, tu vois.
Par CBS, c'est vrai,
Vogue au départ après. Ouais. Et en fait, on aurait mieux fait de racheter chez les Anglais, parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces dans le métier à long terme.
Et tu m'avais pas dit avoir rencontré un musicien de Caravan qui va dire, ah, tiens, allez voir Terry King de ma part.
Absolument, il y avait John Perry qui était venu, justement, qui était venu à cette époque en France, qui tournait avec un groupe. C'était même pas Caravan à l'époque, c'était autre chose encore. Bah, tiens, justement.
Et c'est ce qu'on va écouter ce soir, justement. Voilà. Sunset Wedding.
Et donc on a fait une tournée en corrélation avec eux, puisqu'on était dans la même boîte, et donc c'était une entente parfaite entre ce genre de musique. Il n'y a eu aucun problème, quoi.
Gilbert, donc on a vu déjà donc le début de la carrière du groupe, les premiers pas, la signification du nom, comment a été formé le groupe et par qui, et les différents musiciens. On a vu un petit peu aussi les différents enregistrements, comment ils se sont faits, et si vous étiez satisfait du résultat. Apparemment, ça s'est bien passé, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'aimerais savoir quel a été l'accueil du public et de la presse à la sortie de vos trois disques.
Attends, alors, que je me souvienne de tout ça, parce que c'est pas évident. Bon, la sortie de Pollen... De toute façon, on a passé tout à l'heure là la petite compilation qui était au Golf Tour. Bon, ça c'était un petit peu un côté anecdotique, si tu veux, par rapport aux...
Les premiers pas, hein.
Ouais, les premiers pas discographiques, quoi. La sortie de Pollen a été très très bien accueillie dans la presse française. Ça s'est bien passé. Il y avait des journalistes qui nous suivaient bien, dont je ne me rappelle plus le nom exactement. Mais on a toujours eu un petit peu des gens qui nous suivaient, enfin très très peu, parce que tu sais, à l'époque, dans tous les canards de rock'n'roll, c'était surtout des choses de mode, enfin beaucoup plus que des choses à long terme comme ça qui étaient citées, quoi, beaucoup plus le rock'n'roll pur.
Encore, vous êtes sorti 75, 77, c'était bien la marée progressive, hein.
Il y avait des gens qui nous suivaient, oui, c'est vrai.
On vous rappelle les articles de Picard qui étaient très élogieux.
Je cherchais son nom, et puis il y avait quelqu'un d'autre encore qui était dans Ken Folk.
Jean-Marc Bayeux.
Rock en Stock, en plus on était très amis avec eux.
D'un article biographique.
Ils étaient tous venus d'ailleurs à Genève nous voir enregistrer Halloween. Jean-Marc Bayeux et tout ça pour faire un article directement, directement sur les rushs, quoi, les premiers rushs de la musique, quoi. Donc à ce niveau-là, il y avait des gens qui nous suivaient quand même.
Au niveau vente et accueil du public, j'étais très très surpris. Tu m'as dit que des trois albums parus de Pulsar et réédités, puisqu'ils ont tout le monde sait que les trois ont été réédités par CBS, hein, je crois que c'est ça. Il y en a un qui s'est vendu mieux que les autres. Hein. Lequel?
Eh bien, c'est le deuxième, The Strand of the Future, qui s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires pour l'époque, qui était vraiment une très très belle vente. En fait, Pollen a démarré, bon, tu sais, les premières ventes d'un album pour un groupe français, c'était aux environs de 5 000, 4 000, 3 000, enfin, vraiment, c'était comme ça. Donc c'est ce qu'on a dû faire avec Pollen. Et on est passé tout de suite à la vitesse supérieure avec 10 fois plus d'albums vendus. Donc c'était vraiment déjà une grosse performance quoi pour l'époque. Pour quelle raison? C'est parce qu'on tournait énormément.